C'est parti. Erev Tov, les Koulam, et bienvenue dans notre étude du livre de Shemot. Après une interruption la semaine dernière, eh bien on revient dans le livre de Shemot et on est toujours Beperek. Perek.
Arrête avec tes pages.
Dans le livre blanc, page 98.
On est en livre blanc et c'est pas page 98.
Davka, tu n'as pas raison, parce que même dans le livre blanc, ce n'est pas page 99, puisque nous sommes dans le Perek Kaf Bet, si je ne m'abuse.
Moi, je mets Yud Bet dans Mishpatim, non ?
Yud Bet, ça veut dire quoi, Yud Bet quoi ?
Le Pasuk Yud Bet ou Perek Yud Bet ?
Le Pasuk.
Bet. Moi, je... Aotai, moi, je pense qu'on était arrivé, sans vouloir vous offenser.
Oui,
je pense qu'on est arrivé. Perek Kaf Bet, Perek Kaf Bet, Pasuk Yutet. Si je ne m'abuse. Kaf Bet, Yutet.
Kaf Bet, d'accord, Kaf Bet, d'accord.
Et Pasuk Yud Tet, 19. C'est bon ? Chapitre 22, verset 19.
On peut prendre un ou deux versets avant, éventuellement, pour
pourquoi
se remettre en bouche.
Tu avais la vidéo ?
Nahon, on avait la vidéo pour se remettre en bouche. Alors, on est toujours dans la parasha de Mishpatim, et on est toujours dans les dommages qu'on peut causer à son prochain. On avait parlé des dommages qu'on crée à son prochain avec l'accord de son prochain. Et on parlait de cet homme qui avait séduit une jeune femme et qui avait couché avec elle. Il va devoir donc payer sa virginité. Et on avait expliqué qu'on était dans une autre époque et que les concepts étaient un petit peu différents. Et de là, on est arrivé à « Mechashefa lo techaye » ou pas. וכל שוכב עם בהמה מות יומת. Alors, מכשפה לא תחיה. Ça veut dire quoi? Il faut quoi?
Faut pas laisser vivre les sorcières.
Nous? Et pourquoi il n'y a pas marqué les sorciers?
Parce qu'en général, c'est plutôt les
femmes. Voilà, parce qu'à l'époque, ceux qui sont skimbe qui chouffent, c'était plus des femmes. Est-ce que ça veut dire qu'un sorcier il a le droit d'être laissé? Non, un sorcier aussi, c'est la même chose. Mais la Torah elle a pris le langage Nekeva parce que c'était ce qui était plus habituel. Ve kol shochev im behema mot yumat.
Quel rapport?
Eh bien, la Torah va utiliser ce qu'on appelle le terme, c'est l'une des machlokot sur est-ce qu'on peut utiliser smuchin, c'est-à-dire si y a marqué mechashefa lo techaye et shochev im behema mot yumat, ça veut dire que vu que les deux versets sont mis l'un à côté de l'autre, alors il va falloir les tuer les deux de la même façon. C'est-à-dire qu'on apprend l'un de l'autre. Mais ça n'explique pas encore pourquoi est-ce que les deux versets sont mis l'un à côté de l'autre. Eh bien, tout simplement parce que le kishouf se faisait avec des entrailles d'animal, c'est-à-dire qu'on mêle l'animal à, on va dire, la prise de décision de la vie humaine. Et donc, pareil, celui qui va coucher avec une BMA, il a fait rentrer l'animal dans son intimité. La question qu'on doit se poser, c'est pourquoi est-ce que la Torah elle a besoin de dire que « Shochev im behema mot yumat » Kélou, c'était quelque chose qui était répandu. Ben oui. Bah oui, malasot, quand tu vis dans une société pleinement nomade avec des bergers, machin, bah malheureusement, on voit que des fois, les yetzarim de l'homme qui est avec ses troupeaux pendant des jours et des jours et des jours, eh bien malheureusement, ça peut arriver à gave, c'est toujours le cas dans certaines chevrot aujourd'hui. Donc, fais attention à ça.
Oui. Il y a une raison pourquoi c'est plus la sorcière que...
C'est quoi?
Pourquoi c'est plus les femmes que les hommes qu'on dit la sorcière?
Qu'est-ce que je viens de dire il y a
Non, mais j'ai compris. Non, mais c'est ma question.
Alors, peut-être que je n'ai pas compris ta question.
Pourquoi dans les faits, c'était plus les femmes que les hommes?
Ah, pourquoi est-ce que les femmes, elles s'adonnaient plus à ça que les hommes? Chez là, tout va. Oui, c'est ce qu'il pose la question, il demande pourquoi. C'est une bonne question. Je ne sais pas. J'avoue que je ne me suis jamais vraiment essayé. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi c'est plus quelque chose qui a été fait par les femmes que par les hommes. Loyodea. Ça veut dire Zoveach la Elohim Yehoram Bilti Lashem Levado. Top. Alors là, c'est un peu compliqué. Mazé Zoveach la Elohim Yehoram. Celui qui fait un sacrifice à Elohim, il sera retranché. Seul à Hachem, il peut faire un sacrifice. Bah, j'ai pas compris. Elohim, c'est pas bien ? Hein ? C'est très bien. Elama, vas-y, sauver l'Elohim, Yehoram. Elohim, c'est le nom de Dieu. Et là, on pourra remarquer plus tard dans le livre de Vaïkra, là où on va nous parler des korbanot toute la journée, que tous les korbanot sont faits à Yudke Vavke, au tétragramme, le dévoilement de Dieu auquel on fait les korbanot, eh bien, c'est le tétragramme, et non pas Elohim, l'âme.
Là, ici, ils traduisent par « ô Dieu », ils marquent, enfin, qu'ils sacrifient
au pluriel.
Au pluriel. Pourquoi est-ce qu'ils traduisent comme ça? Parce qu'il y a marqué « la Elohim », et non pas « les Elohim ». C'est comme si on avait dit « azovera, zoveach, le ha Elohim », Yehoram, on dit Ha Elohim. Mais le problème, c'est que dans le Tanakh, si on veut dire qu'il s'agit d'idolâtrie, on dit Elohim Acherim. Aaron ? Mais il n'empêche qu'il y a quand même du vrai dans ce que tu dis. Qu'est-ce que cela veut dire ? Si, c'est quoi quand on parle d'Elohim au pluriel ? Pourquoi est-ce que Elohim, on parle au pluriel ? Vous savez, il y a un homme qui ne réussissait pas trop dans son business de voiture. Je crois qu'il était dans l'automobile, je ne sais pas très bien, et ça ne réussissait que moyennement. Et il s'est dit, comment est-ce que je peux être très riche et avoir plein de femmes? Eh bien, il a créé une secte. Ça marche bien, hein, en France. Et il a changé de nom. Je ne me rappelle même plus de son nom à la base. C'est un bon français, un bon nom français. Puis finalement, il a décidé de s'appeler Raël. Et Raël, il est le chef de la secte des Raéliens. Et les Raéliens, eh bien, ils ont comme symbole une croix gammée à l'intérieur d'un Magen David. Oui. Eh oui. Et il te dit qu'en fait...
Il y a des bubes.
Non, non. Eh bien, en fait, il t'explique que ce sont les extraterrestres qui ont créé la Terre et les êtres humains. Et lui, il est le prophète des extraterrestres. Il fait le lien et un jour ils reviendront. Et voilà, évidemment, maintenant, d'où, qui, que quoi. Il te dit, bah oui, pour lui, c'est qui les extraterrestres? Ce sont Aelo. Là, pour le coup, je ne vais pas prononcer le nom de Dieu en vain. Bah, il te dit, bah oui, regarde, c'est au pluriel en hébreu. Donc, c'est qu'il y en a plein.
Il faut savoir que la religion, oui, c'est pas une religion, c'est une secte.
Ah, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que c'était une secte.
Et le problème pour Elohim, c'est au pluriel, parce que nous, on croit un Dieu dans ce monde-ci, et on croit au même Dieu dans le monde futur.
Alors pourquoi c'est au pluriel? Ça, tu m'as pas expliqué pourquoi c'est au pluriel. Lui, il te dit, c'est au pluriel, parce qu'il y a plein d'extraterrestres. Bon, baroque que c'est des ch'touillottes. Mais, il faut quand même que nous, on explique pourquoi, quand dans la Torah, on parle de Elohim, on le parle au pluriel.
Comment les gens tombent dans des ch'touillottes, je n'ai jamais pu comprendre.
Bah, non, lui, j'imagine qu'il sait que c'est des bêtises. Parce que c'est lui qui l'a inventé.
Non, mais les gens qui tombent.
Ah, pourquoi les gens, ils tombent? Les gens, ils sont en recherche, et des fois, ils sont perdus, et ils sont en recherche de quelque chose qui va leur donner un sens à leur vie, et nanana, et nanana.
Et ils jouent avec ça.
Malasot. Malheureusement, il y en a qui font ça aussi en Israël, hein, avec des grandes barbes et des grandes pertes. Hein. Ah, quoi, tu crois qu'il n'y a pas de secte en Israël?
Il y a même des radiens.
Ah ouais? Ouais, je ne connaissais pas. Bon, en tout cas, malheureusement, ça existe. Mais nous, on ne va pas s'occuper de ça, parce que sinon, voilà, on n'est pas sorti. Mais nous, on va essayer de comprendre, Bechol Zot, pourquoi Shem Hashem Elohim, c'est au pluriel.
Non, mais on
va Rashi dit, c'est pas Shem Hashem. Il dit, c'est marqué comme ça, Zelo Shem Hashem. La Elohim, la Avodat Kochavim. Ilu Aya Nakud, le Elohim, c'est ce que j'ai dit il y a 4 minutes, je pense. Le Elohim, Aya Tzarich Lefaresh, Leptor Acherim. Aval, Achshav, Shamar, la Elohim, En Tzarich Lefaresh Acherim, Kiare Ze, le Ha Elohim. C'est la différence entre le Elohim et la Elohim, ce que j'ai dit il y a 4 minutes. Mais il n'empêche que même quand on te dit Zoveach l'Elohim Yehoram Bilti Lashem Levado, tu comprends bien que ça peut, on ne peut pas se satisfaire simplement de dire Zela Avodat Kochavim. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin que tu me le dises ici alors. Je sais déjà depuis longtemps que Avodat Zara c'est assour. Et là, bien sûr que c'est la Avodat Kochavim. Mais pourquoi ici, il faut nous l'expliquer de manière aussi centrale. Depuis le début de la paracha, on a parlé de tous les problèmes qu'il pouvait y avoir dans ce monde. Tous les litiges qu'il y a dans ce monde. On a donc essayé de dévoiler à Kadosh Baruch Hu, Ba'olam Hazeh. Dans tous les détails du Olam Hazeh. Elohim, nous disent les Darshanim, c'est la gematria de Hateva, la nature. En d'autres termes, quelle est la définition, si je puis dire, entre guillemets, du dévoilement de Dieu par le terme Elohim? C'est les forces de la nature. Il y avait un homme, il y a 300 ans, à Amsterdam, qui a dit, tu prends toutes les forces de la nature, tu les mets ensemble, ça fait Dieu. C'était qui? Baruch Spinoza. Et le problème, il est que lorsqu'il dit ça, est-ce qu'il a tort ou est-ce qu'il a raison? Vous allez dire, il a tort, sinon on l'aurait pas excommunié. Mais en quoi il a tort? Pas dans ce qu'il dit, dans ce qu'il ne dit pas. C'est-à-dire de dire que toutes les forces de ce monde sont l'expression de Dieu, c'est d'achon. Là où c'est une erreur fondamentale, c'est de limiter Dieu à ça. Pour lui, Dieu égale l'ensemble des forces de la nature. Alors que pour nous, Dieu, il se dévoile dans les forces de la nature, mais également au-delà de la nature. C'est-à-dire que pour utiliser des termes plus faciles à comprendre, Dieu, il n'est pas seulement émanant, il est également transcendant. Et comme ce sont des mots trop faciles, je vais utiliser des mots plus compliqués. Dieu, il n'est pas seulement dedans, il est également dehors.
C'est-à-dire? Une petite question, est-ce que tu entends par les forces de Dieu, donc uniquement la pluie, le tonnerre, l'éclair, la foudre, ou aussi les forces de la gravité, les forces électromagnétiques?
Toutes les forces de la nature. Toutes les forces de la nature. Tout ce qui existe sur Terre. Tout ce que Dieu il a créé dans ce monde qui est la nature.
Sinon, ça serait limité.
Donc, ça veut dire que Elohim, c'est l'ensemble des forces de la nature. Mais Yudke Vavke, ça va bien plus loin, puisque c'est au-delà également de la nature. Ça englobe la nature, mais ça va au-delà. En d'autres termes, quand on te dit ici « Zoveach la Elohim Yehoram », Baruch que si tu fais un sacrifice à Apis et Osiris, « Atalo Becherem »« Atamet » Alors tu vas me dire « Non, mais il n'y avait pas de Edim, pas de Atra » Mais c'est évident que si c'est simplement faire un sacrifice à Baal, il n'y a pas de débat. Ici, la question, elle est de dire « Même si tu fais à Elohim, mais que tu penses que c'est ça Dieu », que ça se limite à cela, à Zichoram, qui bilti l'Hachem levado. Ok?
J'ai une question sur ces trois versets.
Dis-moi.
La sorcière, on ne la laisse pas vivre. Celui qui est le zoophile, on le tue. Et celui qui fait un port des sacrifices à Elohim, pour Elohim, il est mis à l'écart. Mm-hmm. En fait, comme tu as dit, il est aussi Hayamita. Donc, pourquoi ces différentes formulations pour finalement, comme tu as dit,
la question porte en soi.
C'est la même. C'est
la même. La question porte en soi la réponse.
Ah oui.
Mais oui, parce que comme on a dit, dans tous les cas, si c'est Avodah Zara, c'est Hayamita. Comme le Shochev im Behema et comme la Mechashefa. Ok? Maintenant, Chayav Mita, c'est Rak, Bedim, Vatra. Sinon, ce n'est pas Chayav Mita. Maintenant, ici, comme on veut te faire comprendre qu'il ne s'agit pas simplement de celui qui va faire de l'idolâtrie à Baal, mais ça va au-delà dans ce qu'on a expliqué, que même celui qui veut s'attacher à Dieu, mais il le limite, alors on te montre qu'il y a une différence. Parce que Stam Avodazara, Chayav Mita, et ça c'est marqué plein de fois dans la Torah. Mais là, ce n'est pas Stam Avodazara. Parce que le mec, il pense qu'il fait Avodat Hashem. Aval Betsura Zara. Ok ? Donc oui, Alpi Adin, si il y aura eu Edim Sira Vatra, il sera quand même Chayav Mita. Mais le texte de la Torah nous le fait passer autrement pour que tu comprennes que ce n'est pas Stam de la Avodazara. Veger lotone. Veger lotone. Velo tilchatsenu. Ki gerim haitem be'eretz Mitzrayim. Ça veut dire ne trompe pas le guerre. Rashi dit be'onad devarim. Tu le trompes. Avalama. Ve'al tilchatsenu. C'est quoi ? Je dis Rashi, tu le voles. En d'autres termes, il ne faut pas te comporter mal avec le guerre. Nous, The Barou. Parce que quoi, s'il n'est pas guerre, tu as le droit de le tromper et de le voler ?
Il y a deux sortes de guerre, le guerre Tosha et le guerre
Nachon, tu as tout à fait raison. Là, en l'occurrence, on parle du guerre Tzedek. Mais c'est vrai aussi pour le guerre Tosha. Et la question reste posée. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de me le dire ? Est-ce que j'ai le droit, avec un Yehoudi, de faire ça ? Non. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de me dire qu'on a pas le droit de le faire avec un guerre ? Parce que j'aurais pu penser que le guerre, il est un petit peu étranger à moi, et donc peut-être que c'est Mouta. Lo, qui gata gam yodea. Toi aussi, tu étais guerre en Eretz Mitzrayim, en Égypte.
C'est parce que le Yehudi, il a des amis.
Il a des amis pour l'aider, machin. Donc là, tu as raison, on va mettre... C'est pour ça que j'allais le dire juste après, le verset d'après. En fait, on met en place tout un système d'aide à celui qui n'a pas de communauté pour l'aider. Donc il y a le guerre, et comme tu dis, il y a... Kol almana veyatom lo ta'anun. C'est pourquoi est-ce qu'on les met ici, la veuve et l'orphelin ? Parce que pareil, ce sont des gens qui n'ont pas de structure pour les aider. Ça, donc on a besoin, pas que c'est moutard de tromper les autres, mais là on te fait un verset encore plus clair, parce que malheureusement,
c'est facile de les abuser.
Voilà, c'est facile de les abuser.
Je serai présent donc, depuis toute la semaine dernière, même il y a deux semaines. Il avait dit, tu fais pas ça, et puis c'est interdit de faire ça, et puis voilà la peine si jamais ça arrive. Et là, il n'y a pas de peine, en fait.
Là, il n'y a pas de peine. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on continue notre étude jusqu'à Sefer Vayikra, pour avoir la peine.
Ça vaut la peine,
tu crois ? Ça vaut la peine. Non, non. Im ane ta'ane oto, ki im tsao ki tsak elai, shamoa eshma tsakato. Vechara api v'aragti etchem v'charev, je pourrais te répondre, ben voilà, tu l'as vu la punition. Sauf que non. Parce que ça, c'est ce que Akadosh Baruch Hu fait. Mais il doit y avoir quand même une punition au Bet Din pour la personne en question. Donc ça n'a rien à voir. Akadosh Baruch Hu te dit, je suis extrêmement sensible au traitement qu'on réserve aux guéris.
Et pourquoi il y a que le...
Enfin, aux guéris, aux Almanot et aux Yatom. Oui ?
Justement, qui s'est écrit, il y avait le guerre, la mana et le yatom. Tout d'un coup, il n'y en a plus qu'un seul qui...
C'est qui est marqué ?
Je sais pas. Iman Otane Oto.
Oto. C'est qui ? Celui qui est Khalash. Je t'ai donné tous les trois qui sont Khalashim. Guerre, yatom, valmana. Im, Tane Oto. L'homme chan est misé. Un des trois. C'est-à-dire, je m'en occupe, nous dit Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que c'est n'importe quel, c'est une catégorie. C'est les gens qui sont en situation de faiblesse. Imkesef talve etami. Imkesef talve etami. Etani imach lot yelo kenoshe. Lot simun alav nesher. Donc là, on parle de quoi ? Le prêt à intérêt. Non, le prêt tout court. Pas intérêt. Intérêt, c'est assourd. Et là, quand tu vas prêter, eh bien, l'autre y est l'autre qui est noché, l'ami, l'ani imach. Tu as prêté de l'argent à un pauvre, ne lui mets pas la pression. Ne lui mets pas la pression. C'est vrai qu'il doit te rendre, mais toi, tu n'as pas le droit d'aller lui demander qu'il te rende. Ça va ? Le midin, c'est d'accord. Ça ne veut pas dire qu'il a le droit de ne pas te rendre. Il doit te rendre. Mais toi, tu n'as pas le droit d'aller lui mettre la pression. Pour savoir quand est-ce qu'on est ani. C'est-à-dire, c'est pas. C'est quoi, ani ? Toute personne qui a un peu de problème, elle est considérée comme ani ? Non, pas forcément. Il y a des halachot medouyakot, à partir de quand on s'appelle ani. Ok ?
Le problème, c'est que si le pauvre sait une halacha, qu'au bout de 6 ans, il n'a plus le droit de restituer ses.
Non, pas du tout. Il a pas, c'est pas qu'il n'a plus le droit, c'est qu'il n'est plus obligé. C'est une différence. Il y a une différence entre il a plus le droit de rendre et il n'est pas obligé de rendre.
Ouais, il y a bien un moment où le riche est obligé d'aller le voir et de lui accuser.
Non.
Je t'ai prêté de l'argent, ça fait 2 ans, maintenant il est temps que tu me.
Non, il n'y a pas le droit de faire ça.
Il ne peut pas aller au bâtiment non
plus. Pourquoi faire ? Je ne sais pas. Il n'est pas en faute. En quoi il est en faute ? Il lui a prêté de l'argent. C'est une mitzvah du prêter de l'argent. Maintenant, l'autre, il doit lui rendre. Mais il n'a pas dit exactement quand il devait lui rendre.
On a le droit de fixer une date pour.
Ah, si les deux, ils sont d'accord et qu'ils ont rédigé un contrat et qu'ils ont dit tu dois me le rendre sous 90 jours, c'est leur problème. C'est déjà, c'est vraiment chaud à faire. Mais la majorité des fois, c'est tu peux me prêter, je te le rendrai le plus vite possible. C'est-à-dire ok. Toi, tu as la mitzvah de lui donner uniquement si tu le peux. Okay. Si toi, ça te met dans une situation de précarité, non, tu ne dois pas lui donner. Mais si toi, tu peux, bah, midin tzedaka, tu lui donnes. Et à ce moment-là, bah, dès qu'il pourra te rembourser, il te remboursera. Maintenant, mal à la sotte, arrive la shmita. Bon, bah, il ne te rembourse pas. S'il veut, il peut. Mais ce ne sera pas Mishum.
Il n'y a pas de...
Nature. Non, mais ce ne sera pas... Quand, si je te rembourse après la shmita... Ça ne sera pas considéré comme étant un remboursement. Ça sera un cadeau que je te fais.
Le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir s'il le fait exprès d'attendre 6 ans. Et de dire, tiens, au bout de 6 ans, je ne dois plus rien.
Non, on ne sait rien s'il fait exprès ou pas. Peut-être qu'il peut faire exprès. C'est pour ça que comme de plus en plus de gens faisaient ce truc-là, eh bien, il a mis en place le Prousboul. Pour que même la Shemitah, elle n'enlève pas le devoir de rendre. C'est ça ? En tout cas, ne pas mettre la pression au pot. Im chavol tachbol salmat re'echa, ad bo ha-shemesh tashivenu lo. Ça va être. Écoute, tu peux me prêter, s'il te plaît, j'ai besoin. Toi, tu as une guitare. J'ai besoin d'une guitare. Est-ce que tu peux me prêter ta guitare ? Il dit oui, bien sûr, je peux te prêter ma guitare, mais tu me prêtes. Enfin, tu me donnes comme gage, comme caution, tu me donnes ta couverture. C'est-à-dire Gamon. Seulement, à ce moment-là, je suis obligé, au coucher du soleil, d'aller lui rendre sa couverture.
Je peux aller lui redemander le...
Ah, il devra me la ramener le lendemain. Mais tous les soirs, je dois lui rendre sa couverture. Parce qu'il en a besoin. Donc, je ne peux pas lui mettre la pression en lui prenant ses objets de survie. Ok ? Jusqu'à ce qu'il me rende ma guitare. D'accord ? D'ailleurs, ça peut être un bon deal. Ça peut être un bon deal. Parce que, par exemple, si moi, je fais des orchestres, je fais des bar mitzvot, des mariages et tout, machin. Et je demande à mon prochain qu'il me prête ses instruments. Bah, c'est bien, mais il me prête ses instruments à Kol Beseder. Et quoi ? Et tous les soirs, je dois lui rendre. Donc peut-être que le mec, il est très content parce que c'est moi qui lui ramène tous les instruments tous les soirs pour aller jouer à ses mariages. Peut-être que je peux faire un business là-dessus, il faut voir. Mais l'idée ici, elle est quoi ? Elle est de dire que tu n'as pas le droit de tirer profit de la situation face à quelqu'un qui est dans une précarité par rapport à toi. Ok ? Pas chou. כי כסותו לוודאי סמלתו לאורו, במה ישכב, והיה כי יצק אליי ושמעתי כי חנון אני, דונקסס קומיה דודי. Elohim, lo tekalel. Venasi be'amcha, lo ta'or. Aha. On n'a pas le droit de maudire qui? Ah voilà, toi tu connais déjà la halakha. La halakha, elle dit que ça fait référence aux juges qui sont appelés Elohim. On n'a pas le droit de maudire les juges. Ah ah, mais c'est pas ce qui a marqué. Enfin, c'est ce qui a marqué, mais pourquoi c'est marqué comme ça? Alors, parce qu'on veut que tu comprennes que les Dayanim qui rendent la justice, ils rendent la justice au nom d'Akadosh Baruch. Cependant, il y a 2000 ans, il y a quelqu'un qui a compris le verset autrement. Il y a 2000 ans, on a vu apparaître l'un des premiers antisémites classiques. Il n'était pas classique à l'époque, c'était un des premiers. Il s'appelait Appion. Appion, c'était un prêtre helléniste grec. Et ce monsieur-là, eh bien, il a balancé les premières grandes insultes antisémites qu'on connaît encore aujourd'hui. Maintenant, cet Appion-là, eh bien, quelqu'un a décidé de lui répondre. Ce quelqu'un, c'était l'un des grands défenseurs du judaïsme de cette époque-là. Il s'appelait Yosef ben Matityahu, plus connu sous le nom de Flavius Joseph. Et donc, il va écrire un livre qui s'appelle « Contre Appion ». Hein, c'est le titre du livre, c'est un petit livre que vous pouvez lire, et dans lequel il répond à tous les arguments de Appion. Premier argument d'Appion, c'est de dire que le peuple juif, c'est un peuple récent. Il a à peine quelques centaines d'années, à l'époque de Appion. Et donc, la première partie du livre, c'est quand Flavius Joseph, il va citer tous les passages, pas dans la Torah, mais dans des écrits hors Torah, qui parlent du peuple juif, dans l'Antiquité. Pour montrer, regarde, on parle de nous partout depuis très très longtemps. Et après, il va répondre aux autres arguments et aux autres critiques de Appion. Et parmi les critiques, c'est « Vous, les Juifs, vous vous moquez de chaque chose sainte. » Vous vous moquez des divinités des autres peuples et cultures. C'est vrai ou pas?
Oui.
C'est vrai?
Oui.
Tu te moques des autres divinités des cultures?
Non.
C'est pas bien. Allez, dis-donc. On se moque ou on se moque pas?
Ben, le fait de ne pas croire à deux divinités, pour les gosses, c'est...
Non, non, non. Il y a de ne pas croire et il y a se moquer. C'est des choses différentes.
On parle de l'acrobate.
Ah, tu dis qu'on parle de l'acrobate, tout ça, c'est un peu de la moquerie. Oui?
On ne se moque pas. Je pense qu'on le fait comprendre qu'ils sont dans l'erreur.
Ça, c'est bestiaire.
C'est pas si moqué.
Mais, comme dit mon ami, est-ce que, de temps en temps, on n'a pas des petits mots un petit peu sarcastiques et ironiques? Hein? Quand on parle de Jésus ou de Bouddha.
On dit que c'est un acrobate.
C'est pas super sympa.
Mais nous, on n'est pas acrobate.
Donc c'est un peu de la moquerie. Appion, donc il dit, les Juifs se moquent de toutes les autres religions. Répond Yosef ben Matityahu, comment tu peux dire ça? Are katuv ba Torah, Elohim lo tekalel. C'est notre verset. Donc il dit Katouf Batorah qu'on n'a pas le droit de se moquer des autres divinités. Ce n'est pas la lecture rabbinique et halachique du verset. Mais c'est comme ça qu'on le comprend à l'époque du Beth Amikdash il y a 2000 ans. Peut-être pour l'expliquer au Goïm. Et après il dit, bon mais d'un autre côté, nous on ne veut pas se moquer. Mais après que vous-même, vous soyez moqué de vos divinités. Et il va citer une quinzaine d'histoires de la mythologie grecque qui mettent les dieux de la mythologie dans des situations complètement ridicules. Il dit, à partir du moment où vous vous moquez de vos dieux, bah nous, on a pris le tramp, on a pris le train en marche. Mais bon, c'est pas nous qui avons commencé, c'est vous.
Qui ça? Parce qu'Appion, il ne se prétend pas païen.
Si, bien sûr.
Il n'était pas chrétien?
Non, pas du tout. J'ai dit, c'est un prêtre helléniste. Et de toute façon, sans vouloir t'offusquer, à l'époque de Flavius Joseph, il n'y a pas encore véritablement de propagation du christianisme. C'est-à-dire qu'il est mort il y a à peu près 30 ans. on est encore sur du très 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 renfermé et encore en Israël. Donc de là à les rencontrer à Pion, à Rome, c'est odlo. Il faudra attendre une bonne centaine d'années avant que le christianisme se soit propagé en Europe occidentale. C'est ça ? Donc c'est pas ça. Mais c'est un prêtre à Avodah Zarah. Panthéon, Zeus, Athéna, Artemis. Ok ? Donc Elohim le Tekalel, en vrai, alachiquement, enfin, c'est en vrai, alachiquement parlant, ça veut dire les juges. Venasi ve'amecha lo ta'o. T'as pas non plus de te moquer du chef du peuple. Qu'il ait une grande kippa, une petite kippa sur la tête, qu'il ait beaucoup de cheveux, qu'il ait pas beaucoup de cheveux, qu'il ait beaucoup d'expérience politique ou pas beaucoup d'expérience politique, qu'il ait fait des alliances avec des gens que tu croyais que c'était pas bien de faire des alliances avec eux, ou qu'il ait pas fait d'alliance, t'as pas le droit de te moquer de lui et de le maudire et chas v'shalom. C'est ça ? Ah, mon ami, voilà. Mais c'est, t'as pas les mêmes trucs. Perek kafbet, pasuk kafret. Ok ? C'est clair ? Meleatecha vedimacha lo teacher. Bechor banecha titen li. Aha. מה זה מלאתך ודמעך לא תאחר? תרומות ומעשרות. Ce que je dois amener en tant que Yevoul, que je dois amener au Kohen, au Beth Amikdash, לא תאחר. Pourquoi est-ce qu'on me dit ça? Parce qu'il s'agit d'éléments de denrées qui ne périssent pas. Donc je pourrais très bien me dire, oh, ça va, je n'ai pas les nerfs de monter à Jérusalem maintenant. L'huile, ça ne périt pas, le blé, l'orge, ça ne périt pas. Donc, les mecs, ils ont récolté, c'est vrai qu'ils doivent amener au Kohen, ils doivent amener au Beth Amikdash, mais ça a l'air pas maintenant. Non, là, alter. Ok ?
Oui ?
Oui, on a le temps. On a le temps du cycle des Shalosh Regalim. C'est pas mal, t'as un an. Ça, alter, Yoter. Ok ? Mais qu'est-ce que c'est Bechor Banecha Titenli ? Faut faire quoi avec ? Faut faire quoi avec ? Avec le Bechor ?
Tu donneras le Maaser.
Quoi ? Le Maaser de ton fils ? Donc tu coupes un doigt sur les 10 ?
On rachète.
Ah, tu dis c'est Pidyon Bechorot. Où tu vois que c'est Pidyon ? Non, j'entends ce que tu dis, mais c'est pas ce qui a marqué. Il devait être Kohanim. Il devait être Kohanim. Et c'est toi, tu vois ça dans le texte.
Oui.
D'accord. Donc tu vois qu'il y a aussi des Kohanim du règne animal.
Pourquoi ?
Ben parce que j'ai triché et j'ai vu le verset d'après où il y a marqué. כן תעשה לשורך לצונך שבעת ימים יהיה עם אמו ביום השמיני תיתנו לי. אה, on fait quoi avec cet animal? Le bechor des animaux, on en fait quoi?
Le chor, c'est le
bœuf. Oui, le bœuf.
Les animaux, les animaux.
Et on en fait quoi?
Là, on parle des
béchors
des bêtes.
Les béchors, il y a aussi les animaux et aussi nous. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les béchors BMA ? Shochatim ! Et on me dit que donne-moi ton béchor de la même façon que tu vas me donner Shochra Vetzonecha. Donc, maintenant que je lis le verset honnêtement, qu'est-ce que là on est en train de me demander ?
De sacrifier mon premier-né.
De sacrifier mon premier-né.
Sacrifier.
Sacrifier, monsieur. Oui, monsieur. Quick.
On le sanctifie.
Tu n'as pas marqué sanctifie ? Il y a marqué titen li.
C'est un être humain, ce n'est pas une bête.
Mais pourtant, le verset me dit de la même façon que tu feras avec ton bœuf ou ton mouton. C'est pas moi qui ai marqué le verset.
Qu'est-ce qu'on fait au départ, avant de, leur couper la tête aux moutons et autres? On les met de côté. Mm-hmm. Ok, mais ce verset, ça, le Béhor, il faut le mettre de côté.
Oui, mais d'accord, mais... Moi, je veux bien, mais tu t'arrêtes avec le « on les met de côté on... ». Sauf qu'on nous dit qu'il faut faire avec nous, mon fils, comme ce que je fais avec le Shor Vetson. Et je ne m'arrête pas simplement avec le mettre de côté.
Si on comprend la Torah comme ça, ouais, alors on est foutu.
Pourquoi? Peut-être, que, peut-être gens, que Dieu il nous demande de tuer les Béchorot.
La Torah ne demande pas à tuer les gens, on ne peut pas rigoler quand même.
Et pourquoi pas?
Comment pourquoi pas? Pas les, on était venus des.
Des quoi?
Pire que des Arabes.
Voilà. Pourquoi pire que des Arabes?
Les Arabes, ils marchent qu'avec le sang.
Et pourquoi tu parles que des Arabes? J'ai une question. J'ai une question mathématique. Ça va être dur.
Il est fort
en vrai. Ouais, mais là, ça va être dur quand même. Sur 600 000 personnes, est-ce que tu trouves ça logique qu'il n'y ait que 22 000 premiers-nés? Mathématiquement parlant, si on a 600 000 hommes et qu'on n'a que 22 000 premiers-nés, ça veut dire que dans chaque famille, il y avait au minimum 17 enfants.
16 enfants.
17. J'ai arrondi. C'est caché. Caché de penser que chaque famille, elle avait 17 enfants.
Bonne moyenne.
On disait qu'à Mesraïm, ils accouchaient 6 bébés à la fois.
6 enfants, Bekar Erad. Ken Bekar Erad. Non. 6, c'est pas 17.
Il n'y en a que 600.
Quoi, 600 enfants en même temps?
À la fois,
et vous comprenez bien que c'est, non, mais vous comprenez bien que c'est Midrashim. Ils veulent nous apprendre quelque chose. Ils nous disent pas que c'est pas ça, c'est passé comme ça. Il n'y a pas eu une femme qui a accouché de 600 enfants en même temps. Il faut être sérieux. Et Lama, comment ça se fait qu'il y avait si peu de premiers nés quand on est sorti d'Égypte?
Parce qu'il y avait des enfants qui mouraient en couche. Et là,
c'était que les premiers nés qui mouraient en couche.
Non, mais
et c'est pour ça que c'était pas. Non, mais ça marche pas ce que tu me dis. Parce qu'à ce moment-là, le chiffre général, il doit baisser aussi.
Le premier-né, c'est que pour l'homme ou c'est aussi pour la
femme? Non, c'est que pour le garçon. Donc c'est vrai que ça peut faire baisser un peu le chiffre. Mais un petit peu. Oui, mais d'accord, mais alors ça devrait être rajouté. T'en rajoutes la moitié. Enfin, le double. Ça fait 44 000. Sur 600 000, c'est quand même peu. Asmakara. Eh bien, je vous rappelle ce qui malheureusement est marqué dans le livre de Yechezkel, au chapitre 20, qu'on était tombé en Égypte dans tous les Giloulé Mitzrayim. On était tombé dans tous les travers de l'Égypte. Or là-bas, comme dans toutes les civilisations de l'époque, on sacrifie le premier-né au Dieu. Donc ça veut dire que les Bnei Israël aussi, ils ont sacrifié beaucoup de leur premier-né en Égypte au Dieu. Quand tu me dis on est pire que des Arabes, toutes les civilisations de avant Moshe et jusqu'à Moshe, toutes, elles font des sacrifices humains. Quoi, ils sont tous débiles?
En Égypte, ils faisaient déjà, ils prenaient les premiers-nés. Logiquement, quand il y a eu la mort des premiers, il y aurait dû avoir personne.
Il y aurait dû avoir personne, sauf qu'il y avait un temps. C'est-à-dire qu'on ne tue pas dès la naissance. On le tue quand il a atteint l'âge d'arriver au service du dieu du temple. Non, ça c'est pour nous. Il me demande comment ça se passait en Égypte. Non, il n'y a pas marqué comment ça se passait en Égypte, là. C'est-à-dire... Donc la question, elle est comme ça. Dans toutes les cultures de l'époque, on donne le premier-né au dieu. Hachel, est-ce qu'ils sont tous barbares? Ou est-ce que se cache quand même quelque chose de profond derrière? Je te rappelle qu'il y a quand même quelqu'un de très grand qui a failli le faire. C'est qui a failli le faire? Failli sacrifier son premier-né?
Abraham.
Abraham. Dieu lui dit, prends Yitzhak et va l'amener en Ola. Et qu'est-ce que Abraham, il comprend qu'il faut faire? Le sacrifier.
Si c'était tellement courant à l'époque, alors on n'en fait pas une telle histoire.
Ben justement, c'est quoi la telle histoire? Le ridouche du judaïsme. C'est qu'à la fin, on lui dit non. Tu as compris? Maintenant, on ne le fait pas.
Mais ce n'est pas spécialement Israël, ce n'est pas spécialement Béhor.
Ah bon?
le Rubin.
Il est unique.
Il est unique et ça n'empêche que Peter Rechem, le premier qui sort de l'utérus de sa maman, eh bien, c'est le Bechor. Mais qu'il y en ait d'autres après ou pas.
Finalement, il n'a pas exécuté.
C'est ça le chidouche. Le chidouche du judaïsme, c'est justement que, certes, partout il donne les premiers-nés, moi, je ne veux pas que tu me serves comme ça. Et le premier-né, effectivement, halakhiquement parlant, tu vas l'ifdot oto et il va servir au Beit HaMikdash. Mais c'est ça le grand chidouche du verset et bichlal du judaïsme. Que quand on te dit titen li, alors que pour les animaux, on les tue, l'enfant, le premier-né, on le consacre. Mais il a fallu justement ce verset pour que tu comprennes le chidouche.
Le chidouche serait de dire que s'il n'est pas une césarienne, il est béchor quand même.
S'il n'est pas en césarienne, il est béchor, point. S'il est en césarienne, il n'est pas béchor. S'il est en césarienne, il n'est pas béchor.
Ah, ça change tout.
Comme ça. Quelqu'un, une femme qui a fait une fausse couche, une femme qui a fait une fausse couche, même si après elle donne naissance naturellement à un garçon, il n'est pas béchor. De la même façon, si son premier-né, il a accouché par césarienne, il n'est pas béchor. Parce qu'il n'y a pas eu ce qu'on appelle Peter Rechem. Ok ?
D'accord. Il n'y aura jamais de béchor.
Qui ? Quoi ?
La mère a accouché après par les voies naturelles.
Ben non, ça y est, le premier-né, il n'est pas béchor,
En fait, le bidon, dans le cadre du
césarienne.
Non.
Eh ben, qu'est-ce que tu veux ?
On ne fait pas le
pidion aben ?
On le fait ?
On ne fait pas le pidion aben s'il y a une césarienne. Hein ? S'il y a une césarienne, on ne fait pas le pidion aben. Non, on ne fait pas. C'est ce que je te dis, on ne fait pas.
Et il ne s'appelle pas Béchor, c'est ça qui est.
Ben non, il ne s'appelle pas Béchor, c'est ce que je fais. Voilà, saute.
D'un point de vue héritage,
il n'est pas tenu à recevoir double ration. Voilà, saute.
Et la mère n'aurait jamais de Béchor.
Eh ben non. Elle vivra très bien avec, hein, t'en fais pas.
Non, mais je
l'ai découvert. Donc c'est pas si grave que ça.
Non, mais je n'ai pas pensé.
Donc. Le chidouche du judaïsme, c'est de dire que nous, on ne veut pas de korbanot Adam. Donc le Béchor, il va oui avoir une importance, parce que le Béchor, il a son importance, il va servir de relation et de lien entre Am Israël et Kadosh Baruch. Ok ?
Pourquoi dans le
passage
c'est marqué justement l'inverse ?
Il y a marqué ici, combien de fois on t'a expliqué que la halakha, ce n'est pas ce qu'on voit dans le verset ? D'accord ? Par contre, on apprend quelque chose d'intéressant de verser au niveau des animaux. C'est que, Zerak, Bayom HaShemini. On ne peut pas faire un korban d'un animal qui a moins de 8 jours. Un animal qui n'a pas 8 jours, il n'est pas sous les korbanes. Rajou, la prochaine fois que tu voudras amener un korban, demande l'âge de l'animal. Rajou. Vanche Kodesh Tiunli. ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, לכלב תשליחון אותו. Puisque אנשי קודש תיון לי, c'est-à-dire que vous devez avoir un statut de kedusha, donc בשר טרפה, vous mangez pas. Parce que la notion de טרפה, c'est la violence naturelle. Soit il est mort de manière naturelle, soit il n'a pas été chrité par ce que l'homme il est censé être capable de faire. La kelev tashlichunoto. Donc ça veut dire que, certes, j'ai pas le droit de le manger, mais j'ai le droit d'en profiter. Je peux le donner à mes animaux. Ok ?
Quand il dit le chien, c'est les animaux en règle générale.
Oui, bah, encore une fois, qu'est-ce que l'homme il a autour de lui qui mange de la viande ?
Il y a des animaux sur deux pattes qui vous donnent la viande.
Oui, justement. Là, on est dans le Machane Israël, à qui tu veux donner des animaux qui ne sont pas cachers ? Les seuls à qui on peut donner, c'est les animaux qui mangent de la viande. Qu'est-ce que tu as comme animal domestique qui mange de la viande ? C'est du chien.
Non, c'est pas des mots pour le désert, ça. C'est pas des mots pour toute la génération.
D'accord, mais la Torah, elle a été donnée à qui ? En Israël.
Oui.
Alors, j'ai pas compris.
Alors, quand on dit la viande pas cachère, tu donnes
Tu donnes, mais parce que qui est-ce que... Mais à qui tu peux le donner à côté de toi? Tu me dis maintenant, je vais l'envoyer en Argentine. Ça a l'air. À l'époque, il n'y avait pas ça. Pourquoi tu veux que la Torah elle parle d'un truc qui n'existe pas à son époque?
C'est pas l'époque de la Torah, c'est encore aujourd'hui.
Mais vous n'arrivez pas à comprendre la différence entre Torah Shebirta et Torah Shebealpé. Bien sûr que tu as raison au niveau halakhique, que Bassar Trefa, je peux le vendre au Goïm. Évidemment. Mais dans la Torah, Bassar Trefa, je vais jamais l'emmener au Goï. Le temps que j'arrive jusqu'au Goï, elle aura périmé complètement.
Qui est allé dans un pays lointain où il n'y avait pas de boucher cachère. Il a demandé à son rabbin comment je sais si je veux de la viande, si c'est cachère ou pas. Il a dit tu donnes au chien, s'il le mange, c'est tarif.
Ah.
Il est revenu complètement maigre.
Ben c'est ça.
Le chien, il est trop marmérim. Là, ils ont dit toute la viande.
Malasote. Lo tisa shema shav al tashet yadecha im rasha liot ed Hamas. Ma ze ed Hamas. Là, on rentre dans les dinim de Bet Hamishpat. On rentre dans toutes les lois qui a trait à ce qui se passe quand on rentre dans l'enceinte du Bet Hamishpat. On a ouvert la procédure avec Elohim Lotekalel, c'était les juges. Maintenant, on rentre dans la notion du Bet Hamishpat. Et donc, on te dit, Altie et Ramas, c'est-à-dire, là, on a le Issour de l'Aïd Sheker. Ok ?
Bet Hamishpat,
c'est la famille.
Dans les 10 commandements.
Oui.
Naron, Vadaï. Il y a plein de choses qu'on est revenu. On t'avait pas parlé de la Vodazara ? Et pourtant, on te l'a remis ici.
Bet Hamishpat, c'est la famille, c'est ça ?
Non, c'est Bet Mishpat, c'est le tribunal. Tribunal. Lo tiye achare rabim le raot, lo velosra velo ta'ane al riv lintot, achare rabim le atot. Eh bien voilà, nous avons dans ce verset les bases de la démocratie. Les bases de la démocratie dans ce verset. Que lorsqu'on veut rendre la justice, ou est-ce que lorsqu'on veut prendre une décision, on le fait à la majorité. Nous dit Rabbeinu Asher Berabbi Yechiel, Arosh, Beklale Psika Shel Arosh, Beklal Dalet, Mikan, de ce verset, que lorsque un groupe de personnes se réunissent et décide de nommer un chef sur eux, eh bien, ce chef a din malchut. Ce qui veut dire que de là, on voit que le système politique démocratique est kasher al-pi halakha, et il a un din malchut. Même shelet Israël, yesh la din malchut. Et donc, tu n'as pas le droit de désobéir à la malchut. Ce qui veut dire qu'il est interdit par la Torah, ze issur deoraita, de ne pas payer ses impôts. Quelqu'un qui essaye de truander le bitoir leumi, le masarnasa, ze issur deoraita. Ça, c'est son problème. Mais l'État, il a le droit. Il n'est pas voleur, il a le droit. Ah, tu sais pourquoi il a le droit? Parce que c'est toi qui lui as donné le droit. Tu lui as donné le droit. Tu lui as donné, en l'élisant, tu lui as donné tous les droits de décider des lois qu'il y aurait dans ce pays. Donc tu lui as donné la permission de décider qu'il te prendrait 50% de ton salaire. Si tu ne voulais pas, il ne fallait pas voter pour lui. Et tu pourras changer dans tes doses d'élection.
Comment va t'expliquer la fin du pasuk?
Oui, Lotissa Shema Shav, Val Tachet Yadecha Imrasha, Mazel Lotissa Shema.
Je parle de Lotia Rabim.
Ah, Lotia Achare Rabim Leraot.
Tu ne ferais pas la même
Il ne faut pas suivre la majorité pour faire le mal. Ok ? Ce n'est pas parce qu'il y a une majorité de gens qui te disent qu'il ne faut pas aller en Eretz Israël qu'il faut les écouter. Pas parce que c'est la majorité que tu as forcément raison. Ok ? Mais par contre, quand on rentre au Beit HaMishpat, « Velo ta'ane al-riv, lintot »« Achare rabim, le'atot » au Beit HaMishpat. Au Beit HaMishpat, on va aller à la majorité.
Mais c'est subjectif, le raot. C'est quoi le mal et...
chose.
C'est le mal pour moi. C'est...
Non, c'est très simple. Ce qui est mal, c'est ce que la Torah a dit, c'est assou. Ce qui est bien, c'est ce que la Torah a dit, c'est muta. Achout. C'est pas chout. Ce qui est muta, c'est bien. Ce qui est assou, c'est mal. C'est pas chout, merde.
Le mot l'atot, il le traduit par s'incliner.
Oui, aller d'un côté ou de l'autre. S'incliner d'un côté ou de l'autre. Védal, lo te'edar berivo. Là, on est revenu, comme on avait commencé avec guerre, yatom, valmana. Celui qui a peu de moyens, lo te'edar berivo. Tu ne vas pas lui mettre des bâtons dans les roues quand il a besoin de justice. Ah, les frais d'avocat sont trop chers, donc il ne peut pas être représenté comme il faut. Il faut payer, aujourd'hui, il y a un grand problème. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut porter plainte contre son prochain, c'est lui qui doit payer les frais d'ouverture de dossier du tribunal. Mais j'ai pas, il m'a volé. C'est ça, on te dit, le védal, l'oté d'arberibou. Qui tifga, shor, oyivra, ochamoro, toé. Achève ta chivène ou là. Tu vas l'aider. Bon, mais ça, je comprends. Par contre, le verset suivant est très bizarre. Qui tirait Hamor sonaha, Rovet tachat masao, Vechadalta me azov lo, Azov ta azov imo. Là, tu as vu le Shor, Hamor, l'omchane. De qui? De ton ennemi, ne le laisse pas comme ça, aide-le. Mais ma question est double. Si c'est mon ennemi, pourquoi est-ce que je l'aiderai? C'est mon ennemi. Fais bête. Comment c'est possible que j'ai quelqu'un que je haïsse? Eh bien, ce sont des questions auxquelles on va essayer de répondre la semaine prochaine. Ça, comme...